Faire via GAB, le service d'envoi d'argent vers le guichet automatique pour un retrait sans carte, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Sénégal où le premier gouvernement de l'ère, Bassirou Diomaye Faye, a tenu mardi son premier conseil des ministres. Le chef de l'État a rappelé à l'équipe gouvernementale qu'il a été élu sur la promesse d'une rupture en profondeur. Il a insisté sur la nécessité de transformer le système à tous les niveaux de la vie économique et sociale, je cite, « au regard des impatiences et des exigences des populations ». L'occasion donc, ce matin, ensemble, de nous pencher sur la composition de ce gouvernement censé incarner la rupture promise durant la campagne électorale. Une équipe, je vous le rappelle, de 25 ministres, 5 secrétaires d'État, le tout piloté par Ousmane Sonko. Vos réactions, évidemment, nous intéressent. 33 9 693 693 70 et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Des commentaires que je lirai, bien évidemment, tout au long du débat. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous privilégié avec la rédaction de RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Nous allons commencer avec Djoukololo qui nous appelle de Niamey. Bonjour. Djoukololo, êtes-vous là? On a appuyé sur le bon bouton, mais on ne vous entend pas. Il doit y avoir un petit problème technique. On va évidemment vous rappeler dans un instant. Peut-on avoir peut-être John Israël? John Israël à Kinshasa, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
On va parler environnement avec vous.
Exactement.
On vous écoute.
La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse pour inaction climatique. Mm-hmm. Alors j'aimerais comprendre certaines choses. Oui. Et quelles sont les mesures concrètes que la Suisse va devoir prendre suite à cette condamnation?
Alors, c'est une condamnation effectivement inédite. Hein. C'est la première fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne un État pour ne pas avoir suffisamment lutté contre le dérèglement climatique. Bonjour Simon Rosé.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre, chef du service environnement de RFI. Avant de répondre précisément à la question de John Israël, expliquez-nous pourquoi la Suisse a-t-elle été condamnée?
Parce qu'une association de retraités suisses, les aînés pour le climat, ils étaient 2500 d'un peu plus de moyenne d'âge de 73 ans, estimaient que leur pays ne faisait pas assez en fait, pour protéger leur santé, tout bêtement, face aux effets du réchauffement climatique. Donc, elles ont épuisé les recours dans leur pays, en Suisse, et ont donc porté l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la dernière instance, l'instance suprême, qui a donc rendu cet arrêt, estimant que oui, en effet, la Suisse n'avait pas respecté l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit un droit à la vie privée en bonne santé, et a donc enjoint la Suisse à prendre les mesures adéquates pour...
Donc, le fait de ne pas prendre de mesures suffisantes pour lutter contre le dérèglement climatique porte atteinte finalement
à la santé,
à notre santé, voilà, à notre bien-être, d'où cette condamnation. Du coup, que va faire la Suisse désormais? Elle va devoir prendre des mesures?
Alors, la Cour ne dit pas « vous devez faire ça, ça, ça et ça ». Elle dit « vous devez prendre des mesures ». Ensuite, c'est au gouvernement suisse de voir ce qu'il va faire. La Suisse, c'est un pays qui ne fait pas de bilan carbone, qui n'a pas d'objectif chiffré, donc il va devoir se doter de tels outils pour mesurer quelles sont ses émissions et surtout avoir un plan pour être en accord avec le respect de l'accord de Paris de 2015 sur le climat, qui vise à limiter le réchauffement climatique à en dessous de 2 degrés et si possible à 1 degré et demi par rapport à l'ère pré-industrielle. Ça veut dire, en gros, c'est baisser ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030, arriver à ce qu'on appelle le net zéro en 2050. Donc ça dit suivre une trajectoire avec des chiffres et des points d'étape, avoir un plan précis et pas des grands objectifs un peu vagues, pas chiffrés. Là, il faut vraiment avoir un plan défini.
Voilà, le gouvernement va donc devoir revoir sa politique climatique. John Israël, je vous ai un peu coupé la parole. Vous avez une deuxième question?
Oui, la deuxième question est celle de savoir, est-ce que cette décision peut-elle avoir une incidence sur les autres États européens?
Simon Rosé.
Et l'État européen, et même plus, en fait, c'est pour tous les États membres du Conseil de l'Europe. Hein, c'est
46. 46 États, oui.
Oui, parce que, bah, aux mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas des législations adéquates dans leur pays, et une fois que les citoyens concernés auront épuisé toutes les voies de recours dans leurs instances nationales, mmh. encore une fois, la CEDH, on n'y a accès que quand on a épuisé toutes les voies de recours dans son pays, bah, aux mêmes causes, les mêmes effets, comme je l'ai dit.
Donc l'arrêt de la Cour fera jurisprudence.
Il fera jurisprudence et
donc on, gros, on peut s'attendre à une multiplication de procédures judiciaires.
Non, il y a des garde-fous quand même parce que bah déjà cette notion d'épuiser tous les recours dans le pays, ça écrème quand même un certain nombre d'affaires. Et là, il y a en fait mardi devant la cour, il y avait trois affaires qui étaient jugées. Sur les trois affaires, il n'y a que celle des Suisses qui a été jugée recevable. Donc il y a pour des arguties juridiques, je ne vais pas m'étendre, mm-hmm. mais il y a quand même des garde-fous pour justement limiter cet afflux de contentieux devant la cour de Strasbourg.
John Israël, a-t-on répondu à vos questions?
Exactement, merci beaucoup, merci à toute la rédaction de la RFI.
Et à Simon Rosé, chef du service environnement de la Radio Mondiale. À bientôt Simon.
Bonne journée.
10h16 à Paris, avons-nous Djoukou Lolo?
Oui,
ah. Bonjour. Je suis ravi quand la technologie fonctionne. Bienvenue Djoukou Lolo, vous nous avez contacté de Niamey, vous avez des questions sur la Côte d'Ivoire?
Oui, j'ai des questions concernant la Côte d'Ivoire.
Oui, allez-y.
Okay. Guillaume Soro a confirmé avoir échangé deux appels téléphoniques avec le président ivoirien. Mmh. Ma première question, sait-on ce qui a permis cet apaisement entre les deux hommes?
Apaisement entre les deux hommes. Certains y voient déjà même une décrispation politique entre le président Ouattara et son ancien Premier ministre. Bonjour Frédéric Guerra.
Bonjour Juan.
Journaliste au service Afrique de RFI. Ça faisait tout de même 5 ans que les deux hommes ne s'étaient pas parlé directement. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui est à l'origine de cet apaisement?
Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on adore les telenovelas, les séries télévisées à la télévision où ils se sont tant aimés, ils se sont tellement détestés. Et maintenant, vont-ils se réconcilier? Ça pourrait être un titre que suivrait la ménagère ivoirienne de moins de 50 ans. Disons que les planètes étaient alignées, que pour cette tentative de réconciliation entre le chef d'État et son ex-premier ministre, la période d'abord, 29 mars, c'est la période du Ramadan, c'est également celle du carême chrétien. Symboliquement, il y avait possibilité d'un grand pardon. Par ailleurs, l'entourage de Guillaume Soro affirme qu'un ex-chef d'État africain, dont il taise le nom, aurait joué les missiles de Minissi, les intermédiaires, pour que les deux hommes reprennent langue, notamment à la faveur des récentes mesures de grâce présidentielle du 22 février. Des mesures qui ont bénéficié à de nombreux proches de Guillaume Soro, dont Souleymane Camarate, Soul Toussoul, son ex-chef de protocole, Afousiata Bamba Lamine, ancienne ministre de la Communication, Moussa Touré, chargé de communication de Guillaume Soro, pour certains qui étaient réfugiés en Europe et d'autres étaient emprisonnés à Abidjan. Et
donc c'était apparemment le bon moment.
Oui, c'était le bon moment. Ça fait 5 ans donc Guillaume Soro n'avait pas parlé à Alassane Ouattara. 5 ans d'exil également. Il était temps, suggère son entourage, de rentrer au bercail.
Et sait-on ce que les deux hommes se sont dit au téléphone?
Alors, côté présidentiel, c'est compliqué. Quand on appelle là-bas, on vous dit pas de commentaires. On ne veut pas en faire des tonnes et des tonnes sur ce coup de fil. Côté de l'entourage Soro, on nous explique que celui-ci a fait amende honorable. Ses propos ont été polis et déférents, nous dit-on. Ils ont consisté essentiellement à remercier Alassane Ouattara pour les grâces présidentielles qu'on a évoquées. Il y a également eu des excuses sur les prises de position extrêmement frontales lors des 5 dernières années. On a un peu de mémoire. Si on a un peu de mémoire, on se souvient qu'il n'y a pas si longtemps, Soro a eu des mots pas très diplomatiques à l'encontre de Alassane Ouattara et de son gouvernement. On a entendu des noms d'oiseaux, on a parlé de dictature, on a parlé de gouvernement non démocratique. Bref, tout ça, c'est d'histoire ancienne. Les deux hommes se sont rabibochés. Il a été également question d'une hypothèse d'un retour à Abidjan. Peut-être faut-il résoudre le problème du point de chute de Guillaume Soro, puisque je vous rappelle que tous ses biens ont été confisqués par l'État. Et puis, il y a la question qui fâche, c'est celle sur la condamnation à perpétuité de Guillaume Soro pour atteinte à la sûreté de l'État. Ouais. C'est un sujet qui n'a pas vraiment été évoqué. C'est un sujet extrêmement délicat.
En tout cas, Guillaume Soro, ça fait déjà plusieurs mois qu'il ne cache pas son intention de revenir dans sa terre natale. Je reprends là ses propos, donc de retourner en Côte d'Ivoire. Vous avez une dernière question, Djoukou Lolo?
Oui, la deuxième question. Est-ce à un lien avec l'élection présidentielle de l'année prochaine?
Alors, ce rapprochement a-t-il un lien avec la présidentielle ? En tout cas, Guillaume Soro a dit, je confirme, ce n'est pas un poisson d'avril. J'ai bien parlé le 1er avril avec le président Alassane Ouattara, d'autant que la présidentielle approche et il faut s'activer, a-t-il dit.
Automne 2025, ouais, c'est le prochain rendez-vous politique, un gros rendez-vous, un rendez-vous important. Ça n'a pas été directement évoqué lors de ces coups de fil, mais évidemment, on ne peut pas en faire abstraction. Soro, même en exil, c'est un personnage extrêmement important du paysage politique ivoirien. Quels que soient ses projets et ambitions, il est difficile pour lui de jouer un rôle à distance, hors du pays. Et puis pour Alassane Ouattara, il s'agit de faire la démonstration jusqu'au bout que la réconciliation nationale est achevée, 14 ans après la plus grave crise politique et militaire qu'ait connue la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est rentré, Simone Gbagbo est rentré, Charles Blé Goudé, tous les ennemis d'hier sont rentrés au pays et ont été graciés. Le dernier acteur majeur, c'est donc Soro. Et ami ou bien ennemi politique de Ouattara, il vaut mieux l'avoir près de soi que loin de soi. La présidentielle de 2025 approche, vous l'avez dit, chaque parti fourbit ses armes et Soro va jouer certainement un rôle dans cette partie politique.
On va suivre bien évidemment ce feuilleton. Djoukoulolo, à Niamey, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, exactement.
On vous souhaite une bonne journée.
Merci, merci à toute la rédaction.
C'est normal, on est là pour ça. À bientôt, Frédéric Gara. 10h21 à Paris. Et je vous rappelle que toutes les explications de la rédaction sont à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio ou bien sur notre chaîne WhatsApp, RFI Appel sur l'actualité. Je vois Antoine Grenier qui s'installe dans ce studio. On va parler football et on va parler du Real Madrid. Bonjour Antoine.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Journaliste au service des sports de RFI, on a en ligne un support du Real Madrid. David, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan.
Bonjour Antoine. À Bagassola, c'est au bord du lac Tchad. Quelles sont vos questions, David ?
Exactement. En tant que supporter du Real Madrid, je suis très inquiet après le match nul contre City mardi soir. Je crains que la défaite en demi-finale de l'année dernière, 4-1, ne se reproduise dès le quart 1. Ah. Quelle stratégie Ancelotti pourrait-il déployer pour vaincre les hommes de Pep Guardiola la semaine prochaine à Manchester?
Il y a eu quand même 6 buts mardi soir au stade Santiago Bernabéu. Score final 3 partout, Antoine Grenier. C'est vrai qu'il va falloir attendre la semaine prochaine pour savoir laquelle des deux équipes se qualifiera en demi-finale, mais ça s'annonce un peu compliqué quand même pour le Real Madrid.
Oui, je ne veux pas augmenter l'inquiétude de David, mais ça va être très 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 compliqué pour le Real, ce retour à Manchester. C'est pas idéal de concéder un nul à domicile. La probabilité de voir les Madrilènes sortir, elle est assez forte. Hein. On se souvient que c'était la saison passée. Les Madrilènes avaient fait un match nul, un partout à domicile. Et ils avaient pris 4-0 au retour. Mais Ancelotti, il connaît ce niveau de la compétition. Il est très, très expérimenté. Donc, il y a de quoi espérer. Déjà parce que le Real a montré de plutôt belles choses contre Manchester City, qui est champion d'Europe en titre, hein, faut pas l'oublier. Il y a eu la capacité de la défense madrilène de ceinturer Erling Haaland. Antonio Rüdiger, le défenseur allemand, a été surnommé le mur de Berlin à l'occasion par la presse espagnole. Donc c'est qu'il y a quelque chose sur lequel Ancelotti peut s'appuyer pour le match retour. Il faut reconnaître que même s'il a pris 3 buts et qu'il n'est pas exempt de tout reproche, notamment sur le but de Bernardo Silva, une des satisfactions, c'est Andrei Lounin, le remplaçant de Thibaut Courtois. Il n'y a pas forcément de raison de voir le Real changer sa manière de jouer. C'est-à-dire que les Madrilènes, au retour, n'auront aucun intérêt à faire le jeu à Manchester United. Au contraire, on peut s'attendre à ce que les Madrilènes exploitent les rares carences défensives mancuniennes à travers des contre-attaques. On l'a vu, Akanji n'est pas forcément au top du côté de Manchester City. Donc l'autre motif d'espoir, ça pourrait être que Jude Bellingham a raté son match. Il en rate rarement deux, même s'il n'est pas forcément dans la meilleure forme de sa saison, l'anglais. Jude Bellingham pourrait aussi être une solution pour le match retour.
Allez, on verra ça mercredi prochain, match retour. David ?
Oui, l'absence d'un véritable numéro 9 pourrait tel joueur en la défaveur de Madrid.
Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus de véritable numéro 9 depuis le départ de Karim Benzema.
Oui, exactement. Antoine. Et en attendant l'arrivée, pourquoi pas, d'un joueur capable de marquer 30 buts par saison. Pourquoi pas en provenance
du
Paris
PSG,
Saint-Germain.
Ouais, un certain Kylian Mbappé, peut-être.
Voilà, vous suivez mon regard. Bon, ce n'est pas visiblement encore fait, mais le Real, de toute façon, cette saison, se débrouille sans buteur. Et c'est un choix assumé par Carlo Ancelotti.
Et le Real marque plus sans Karim Benzema.
Et le Real est à 66 buts marqués en Liga, avec 19 buts en Ligue des Champions, 8 buteurs différents, c'est à peu près les stats d'Arsenal. Donc le Real Madrid est absolument pas ridicule offensivement. C'est dû aussi à une adaptation technique de Carlo Ancelotti, qui utilise Vinicius et Rodrigo comme deux attaquants au lieu d'avoir un buteur en numéro 9. Karim Benzema, il n'avait pas pesé face à Manchester City la saison dernière. Donc le Real Madrid s'appuie sur les forces qu'il a et pourra jouer sa partition contre Manchester City.
Vous voilà peut-être un peu plus rassuré, David ?
Exactement, c'est parfait, juste parfait.
Bon, bah écoutez, bonne chance au Real. Et bonne chose également au PSG. Hein.
Ça, c'est
autre, un autre sujet. Allez, bonne journée à tous les deux. David à Bagassola au Tchad et à vous Antoine Grenier du service des sports de RFI. 10h25, on a le temps de prendre une dernière question. Tiens, on va parler des Jeux Olympiques Paris 2024. On est de mémoire à 107 jours du coup d'envoi. Bonjour Demba Moussa.
Bonjour Johan.
Vous nous avez envoyé des questions via WhatsApp. Vous êtes à Bamako au Mali.
Oui,
on vous écoute.
Bonjour, et je dis mon bonjour à tous les auditeurs de RFI à travers le monde. Selon une récente étude d'une ONG, les eaux de la Seine seraient impropres à la baignade. Question, comment les autorités comptent-elles régler le problème pour que les épreuves des JO puissent avoir lieu?
Ouais, la Seine où se tiendront les épreuves olympiques et paralympiques du triathlon et les 10 km nage en eau libre. Bonjour Amélie Beaucourt.
Bonjour Juan, bonjour Demba Moussa.
Journaliste au service France de RFI. Rappelons que ces 8 derniers mois, la fondation Surfrider a effectué des prélèvements dans la Seine, la même où se tiendront les épreuves. Et les résultats, je cite, sont alarmants. La qualité de l'eau est impropre à la baignade. Concrètement, comment les autorités comptent-elles régler le problème ?
Alors, il y a plusieurs choses qui vont être mises en place et qui se mettent en marche progressivement. D'abord, il faut savoir qu'il y avait encore récemment des habitations à Paris qui rejetaient directement leurs eaux usées dans la Seine. Donc, quand on parle d'eau usée, on parle aussi bien de l'eau de la douche que de celle de l'évier de la cuisine ou bien celle des toilettes. Il y a plus de 20 000 habitations, donc sans compter les bateaux qui stationnent au bord du fleuve, qui vont devoir se raccorder au réseau d'assainissement avant l'été. Ensuite, les usines de traitement de ces eaux usées, elles sont en train d'être modernisées. En fait, quand les eaux sales arrivent à l'usine, elles subissent un traitement chimique pour éliminer les bactéries nocives, mais toutes ne sont pas anéanties. Les autorités essaient donc de travailler sur une désinfection supplémentaire et plus efficace pour qu'il y ait moins possible de micro-organismes pathologiques dans les eaux, parce qu'elles sont quand même à la fin rejetées dans la Seine.
Ouais. En tout cas, le gros défi pour les autorités, Amélie, c'est la pluie. C'est-elle le facteur principal de contamination de la Seine ?
Oui, tout à fait. En fait, à Paris, l'eau de pluie, quand elle s'écoule, elle rejoint dans les égouts le même tuyau que les eaux usées qui sont en route pour la station d'épuration. Donc lorsqu'il pleut beaucoup, pour éviter que tout ça déborde sur la chaussée, le trop-plein est déversé dans la Seine. Donc plus il pleut, plus la Seine est contaminée. Alors pour éviter que ça arrive, la ville de Paris est en train de construire sous terre ce qu'on appelle un bassin d'orage. C'est une énorme cuve qui peut contenir jusqu'à 20 piscines olympiques. L'idée, c'est de capter les eaux de pluie qui pourraient faire déborder les égouts, de les stocker le temps que la météo se calme et ensuite de les envoyer à l'usine de traitement.
Et comment savoir le jour J si la qualité de l'eau sera bonne ?
Eh bien, la veille des épreuves ou bien des entraînements, deux laboratoires mandatés par le comité d'organisation iront faire des prélèvements et à partir de ces résultats, il y aura une réunion aux aurores le jour J avec les fédérations sportives, les équipes médicales, les experts de Météo France pour décider si la qualité pose problème ou non. Donc tout va se jouer en fait à la dernière minute.
Alors on nous dit qu'il n'y aura pas de problème, les épreuves auront bien lieu sur la Seine, mais si l'eau n'est pas conforme aux réglementations, qu'est-il prévu justement pour les athlètes, pour les épreuves ? Est-ce qu'il y a un plan B ?
Alors oui et non. Si par plan plan B, vous entendez un autre lieu, un autre bassin aquatique où se déroulerait l'épreuve? La réponse est non. C'est ce que demande notamment la championne olympique Anna Marcela Cunha, qui est pourtant habituée à nager dans des eaux pas très propres, il faut le dire. Le seul plan B qui est envisagé par le comité organisateur, c'est de pouvoir, en fonction des résultats, repousser l'épreuve 2 ou 3 jours plus tard. Mais s'il n'y a pas d'amélioration, ça veut dire prendre le risque de devoir tout simplement annuler l'épreuve. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé l'été dernier dans les épreuves tests.
Effectivement, c'était des tests. En tout cas, on verra si Emmanuel Macron tiendra sa promesse, hein, celle de se
baigner. De piquer une tête.
Exactement. Et j'ai même le souvenir que la maire de Paris, Anne Hidalgo, a dit « pas de problème, je me baignerai ».
Exactement.
Bon, on verra ça, on verra ça. Plus que 107 jours exactement. Demba Moussa, a-t-on répondu à vos questions?
Exactement.
Bonne journée. Eh bien, merci à vous surtout de continuer à nous suivre à Bamako. À très vite. Vous revenez quand vous le souhaitez. Amélie Beaucourt, bonne journée.
Bonne journée, Juan.
Et bonne journée donc au service France de RFI. Restez avec nous. On va marquer une pause 10 minutes pour un point complet sur l'actualité africaine. C'est la dernière édition d'Afrique Matin. Et on reviendra tout de suite après pour décortiquer ensemble la composition du nouveau gouvernement sénégalais. Un gouvernement de rupture, nous avait promis Ousmane Sonko, le Premier ministre. Alors, est-ce le cas? On en parle évidemment tous ensemble. Restez avec nous.